Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Aujourd'hui, le filmographe est consacré à la carrière d'Ingrid Bergman sur Séance Radio par BNP Paribas.
Bonjour Antoine Cyr, bonjour à tous. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour continuer notre balade dans la filmographie de l'une des plus grandes stars du cinématographe. Née à Stockholm en 1915, arrivée à Hollywood en 1938, Ingrid Bergman. La semaine dernière, nous nous étions quittés en 1945, date à laquelle elle avait déjà tourné notamment Dr. Jekyll et Mr. Hyde, Casablanca, Pour qui sonne le glas, La maison du Dr. Edwards et bien sûr Antise de Georges Cukor, qui lui valut le premier Oscar de sa carrière.
Lorsqu'Ingrid Bergman reçoit début 1945 l'Oscar pour Antise, le trophée du meilleur acteur et celui du meilleur réalisateur sont remportés respectivement par Bing Crosby et Léo McCarey pour La route semée d'étoiles. Et alors, Ingrid Bergman, elle est un peu coquine parce qu'elle dit « Heureusement que j'ai aussi remporté un Oscar, car je vais bientôt tourner en compagnie de ces messieurs une suite de leurs films et j'avais peur qu'ils ne m'adressent pas la parole. » Et effectivement, on peut dire à l'époque que Ingrid Bergman est parfaitement intégrée à Hollywood et à sa forme d'humour. La suite en question, c'est Les cloches de Sainte-Marie, qui vaudra à Ingrid sa troisième nomination consécutive pour l'Oscar.
C'est Robert Emmett Dolan, qui avait déjà écrit beaucoup de partitions pour Bing Crosby, qui écrivit la musique des cloches de Sainte-Marie.
Dans ce film, Ingrid Bergman est sœur Marie-Bénédicte, la mère supérieure d'une congrégation qui enseigne dans une école située dans la paroisse que dirige le père O'Malley, Bing Crosby. Malgré leurs désaccords, cette religieuse rayonnante de foi, bourrée de principes, et ce prêtre aussi malin qu'intégré à la vie moderne deviennent des amis. O'Malley aide à sauver l'école convoitée par un homme d'affaires qui veut en faire un parking. Apprenant que sœur Marie-Bénédicte est atteinte d'un début de tuberculose, il obtient sa mutation dans une paroisse où l'air est meilleur. Mais comme il ne lui en donne pas la raison, elle croit à une sanction disciplinaire. C'est alors qu'Ingrid Bergman donne toute la mesure de son talent, faisant passer à l'écran la douleur de cette religieuse que son vœu d'abnégation lui ordonne de taire et de combattre. Malgré ce subtil moment de drame, cette comédie reste trop emplie de béatitude pour Ingrid Bergman, qui s'exclame dans ses mémoires « Naturellement, du moment qu'on m'a vu dans les cloches de Sainte-Marie, tout le monde a compris pour quel genre de rôle j'étais faite. J'étais née pour jouer les nonnes. Les nonnes drôles, oui, mais les nonnes quand même. Le gros avantage que j'y voyais, c'est que je n'avais à montrer que mon visage. Tout le reste était caché par des voiles, des plis, des mètres de drap noir, et je pouvais manger toutes les glaces que je voulais. Personne ne s'inquiétait plus de mon poids. »
À ce propos, son ami Hitchcock, qui partageait avec elle tous les plaisirs de la table, aussi bien solide que liquide, la qualifiait un jour de siphon humain. Hitchcock ne craint jamais personne pour ce qui est de délicatesse.
En 1946, Ingrid Bergman, désormais libérée de son contrat d'exclusivité avec Selznick, participe à un film raté malgré une belle distribution.
Et une bande-annonce tonitruante.
Ingrid Bergman as Joan Madou, the woman of the shadows. The screen's greatest actress in her greatest performance. Charles Boyer as Ravik, the ghost doctor. The most forceful role of his career.
Ce film, qui lui permet de retrouver Charles Boyer, c'est Arc de Triomphe. Tiré d'un roman d'Éric Maria Remarque, Arc de Triomphe raconte la vie à Paris juste avant la guerre d'un opposant au nazisme incarné par Charles Boyer, confronté à un agent de la Gestapo qui l'a torturé et que joue Charles Laughton. Boyer rencontre une réfugiée italo-roumaine que joue Ingrid Bergman, était, comme chacun sait, tout à fait italienne et tout à fait roumaine, dont le fiancé vient de mourir dans le film. Boyer aide Ingrid Bergman à trouver un emploi de chanteuse. Ils tombent amoureux l'un de l'autre, tout en sachant que leur mariage leur est impossible, car l'homme est à Paris en situation irrégulière. Le rôle de chanteuse de cabaret improvisé, vaguement inspiré de Marlène Dietrich, avec qui Remarque avait eu une liaison, ne convient guère à Ingrid Bergman. Peu à l'aise, elle écrit dans ses mémoires « J'avais l'impression que mon personnage n'était pas crédible et le film était trop long. On a décidé de faire des coupures et l'histoire a perdu tout son sens. » Tourné en 1946, Arc de Triomphe ne sortira qu'en 1948.
Et ce film avait été logiquement tourné à Paris, sauf quelques scènes ajoutées par la suite entre Ingrid Bergman et Charlotten, qui furent tournées, elles, à New York, où l'actrice incarnait un tout autre personnage sur une scène de Broadway.
En effet, en 1946, Ingrid Bergman va devenir Jeanne d'Arc dans une pièce de théâtre de Maxwell Anderson. La première a lieu à Washington. Elle découvre sur place que les Noirs ne sont pas admis dans les théâtres de cette ville. Et là, elle est furieuse. Elle annonce dès la conférence de presse précédant la représentation qu'elle ne reviendra jamais à Washington. Mais la pièce est bientôt un succès à Broadway. Une version cinématographique de Sainte-Jeanne de Georges Bernard Shaw a été maintes fois envisagée avec Greta Garbo, mais elle n'a pas vu le jour. Victor Fleming, qui est à l'époque très amoureux d'Ingrid Bergman, lui propose une autre façon d'interpréter Jeanne d'Arc en portant à l'écran la fameuse pièce de Maxwell Anderson dans une production indépendante de Walter Wanger. L'actrice étudie très sérieusement le rôle et les documents historiques permettant de comprendre Jeanne d'Arc. Elle entreprend même, plutôt pour des raisons publicitaires quand même, un voyage jusqu'à Domrémy, le village de la Pucelle.
Justement rebaptisé depuis Domrémy la Pucelle.
L'élaboration du scénario, dont l'adaptation a été confiée à Anderson, l'auteur de la pièce, se fait dans la douleur. Les scènes de bataille sont à la fois d'une ampleur somptueuse et dépourvues des anachronismes habituels des films de chevalerie hollywoodiens. Il flotte sur Jeanne d'Arc, le film, une ambiance de tableau flamand qui sert la beauté d'Ingrid Bergman, mais qui la rend parfois peu expressive. On peut reprocher à l'actrice suédoise de jouer son rôle en mettant plus de vaillance dans le combat que d'incandescence dans ses actes de foi. Mais après tout, si elle incarne une sainte, elle joue aussi une jeune femme analphabète engagée dans une lutte sans merci contre un envahisseur. Elle campe une Jeanne d'Arc aux idées simples et droites, à qui ses voix dictent une conduite claire et qui ne ressent d'autre tourment que la douleur de voir sa terre envahie et la peur d'être incomprise. Elle est victime autant des calculs du roi de France, que joue José Ferrer, que de la traîtrise de l'évêque Cochon, interprété par Francis L. Sullivan, et puis aussi de l'inimitié des Anglo-Bourguignons. Ingrid Bergman, qui a travaillé sur ses répliques elle-même, a fait de Jeanne, 3 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale, un personnage de résistante à l'oppression. Bosley Crowther, le célèbre critique du New York Times, n'est guère convaincu. Il écrit à propos d'Ingrid Bergman « Belle à regarder, elle n'a pas de grande qualité spirituelle. Sa force semble résider dans son corps plutôt que dans sa foi brûlante. » De la RKO devant lesquels elle est brûlée sont ceux qui avaient été construits pour le martyr avorté, celui-là, de Maureen O'Hara dans Quasimodo. Le film est un échec commercial, mais vaut tout de même à l'actrice une nouvelle nomination à l'Oscar. 4 mois après la première, Victor Fleming, peut-être épuisé par le tournage difficile de Jeanne d'Arc, meurt d'une crise cardiaque.
Et le producteur Walter Wanger refusa l'Oscar d'honneur qui lui fut attribué à l'occasion de cette Jeanne d'Arc pour protester contre sa non-sélection dans la catégorie meilleur film de l'année. On notera encore que José Ferrer, roi de France, donc, faisait à 36 ans ses débuts à l'écran et que la musique du film est signée Hugo Fredhofer.
En 1954, Ingrid Bergman aura fait cause commune avec Roberto Rossellini et sera à nouveau la Pucelle d'Orléans dans un film aussi inclassable que magnifique, Jeanne au bûcher. Il est adapté d'un oratorio de Paul Claudel et Arthur Honegger que Rossellini avait déjà monté avec la comédienne au théâtre San Carlo de Naples en 1953.
C'est d'ailleurs dans ce théâtre que le film fut tourné.
Là, Jeanne est arrivée au ciel et en compagnie de frère Dominique, incarné par Tullio Carminati, elle revoit les épisodes de sa vie terrestre, représentés de manière allégorique et plongée dans un bain mystique par l'obsédante musique de Honegger. Rien qu'en parlant, je l'ai en tête. La foi et l'amour sont les moteurs de la Jeanne de Rossellini, qui n'apparaît dans le film qu'en robe de bure avec des chaînes au poignet. Instruite par son passage chez les mortels, elle est bien différente de la Jeanne de Fleming. Elle est écorchée, illuminée et solennelle comme une sainte, quand la précédente était sereine, héroïque et déterminée comme une pionnière du Far West.
Il existe deux versions françaises de Jeanne au bûcher, l'une doublée par Ingrid Bergman elle-même, l'autre par Claude Nollier de la Comédie Française.
Mais quoi ? Mon peuple de France, il est vrai que tu veux me brûler vive. J'entends une voix au-dessus de moi qui dit: non, Jeanne, tu n'es pas seul.
Ingrid Bergman, doublée en français par Claude Nollier dans la dernière et brûlante séquence de Jeanne au bûcher de Roberto Rossellini. Vous écoutez le Filmographe sur Séance Radio. On retrouve Ingrid Bergman toujours en compagnie d'Antoine Cyr.
Début 1948, avant même l'échec de Jeanne d'Arc, la carrière d'Ingrid Bergman est un peu au point mort. Elle fait part à son amie Irène Selznick, qui est divorcée du producteur et qui s'est, lequel s'est mise en ménage avec Jennifer Jones, d'une liste de 5 réalisateurs avec qui elle est prête à travailler, même au prix d'un important sacrifice financier. Billy Wilder, George Stevens, William Wyler, John Huston et Roberto Rossellini. Irène Selznick conseille à Ingrid Bergman d'écrire à chacun de ses metteurs en scène. Elle n'envoie finalement qu'une seule lettre, celle pour Rossellini. Ce dernier incarne à l'époque la révolution néo-réaliste. Avec Rome, ville ouverte et Païsia, elle a été un choc pour Hollywood et a profondément marqué Ingrid Bergman.
Mais qui plongea son ami Hitchcock dans une sombre dépression lorsqu'il la vit partir au bras de Rossellini. Il ne savait pas encore qu'une certaine Grace Kelly se préparait dans l'ombre.
En juin 1945, pour son retour en Europe, l'actrice avait eu une liaison avec le photographe Robert Capa et côtoyait l'écrivain Irwin Shaw, deux observateurs persans et médusés du continent laissé en ruine par la guerre et le nazisme. Ingrid Bergman est mieux que beaucoup d'autres à Hollywood en état d'apprécier les travaux que Rossellini a produits à partir de cette réalité. Elle lui écrit « Si vous avez besoin d'une actrice suédoise qui parle très bien l'anglais, qui n'a pas oublié son allemand, qui n'est pas très compréhensible en français et qui en italien ne sait dire que ti amo, alors je suis prête à venir faire un film avec vous. » La réponse de Rossellini, enthousiaste, ne se fait pas attendre. Il a un film pour Ingrid Bergman et leur première rencontre a lieu à Paris où elle sera en compagnie de son mari Peter Lindstrom qui l'aide à négocier son contrat. On nous a présenté et Peter m'a dit quelque chose que je n'ai pas compris. Je regardais les yeux de Roberto.
Il n'avait pas 40 ans, mais avait déjà remporté une Palme d'Or à Cannes avec Rome, ville ouverte.
Rossellini destine à Ingrid Bergman, c'est Stromboli.
Musique de Renzo Rossellini, le petit frère de Roberto.
Howard Hughes, qui vient de racheter la RKO et qui est amoureux d'Ingrid Bergman, mais alors lui comme de toutes les actrices, accepte de financer le film. En apprenant que Rossellini allait tourner Stromboli sans elle, sa compagne Anna Magnani lui a fait une épouvantable scène du ménage. Lorsque Ingrid Bergman arrive triomphalement à Rome en mars 1949, tous les ingrédients de sa passion pour le metteur en scène sont déjà réunis. Il y avait tant de monde à l'aéroport qu'on aurait plutôt cru qu'on attendait une reine, pas moi. Roberto m'a mis dans les bras un grand bouquet de fleurs et nous nous sommes tant bien que mal frayé un chemin jusqu'aux voitures.
Stromboli est sorti en 1950 et la même année, le compositeur et chanteur Woody Guthrie avait écrit une chanson tout simplement intitulée Ingrid Bergman, mais ne l'ayant jamais enregistrée avant sa mort en 1967, c'est la version que Billy Bragg enregistra sur son album Mermaid Avenue en 1998 que nous vous proposons. Ça commence par Ingrid Bergman, Ingrid Bergman. Allons faire une photo sur l'île de Stromboli.
Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, let's go make a picture on the island of Stromboli. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, you're so pretty, you'd make any mountain quiver, you'd make fire fly from the crater. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, if you walk across my camera, I will flash the world your story. I will pay you more than money, Ingrid Bergman. Not by pennies, dimes, nor quarters, but with happy sons and daughters, and they'll sing around Stromboli, Ingrid Bergman. This old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman.
Ingrid Bergman, une chanson de Woody Guthrie interprétée par Billy Bragg. C'est toujours le filmographe de Séance Radio que vous écoutez. Nous sommes toujours en compagnie d'Antoine Cyr et d'Ingrid Bergman qui abandonne donc Hollywood pour Rome.
Ingrid Bergman laisse derrière elle son mari et leur fille Pia. Elle s'installe avec Rossellini qu'elle épouse en 1950. Ils auront trois enfants, Robertino, puis les deux jumelles, Isabella et Isotta. Lorsqu'Ingrid Bergman attend son premier bébé, les ligues de vertu américaines sont scandalisées. Il faut dire que la chroniqueuse Edda Hopper s'est rendue sur le tournage de Stromboli. Elle a évoqué la rumeur selon laquelle Ingrid Bergman serait enceinte, mais cette dernière a démenti. Et là, Luella Parsons, qui était parmi les chroniqueuses américaines, la grande concurrente de Edda Hopper, elle apprend la nouvelle aussi et apprend la rumeur, et elle n'hésite pas à donner cette nouvelle dans son journal. Donc, forcément, Edda Hopper est absolument furieuse puisqu'elle s'est fait piquer son scoop par Luella Parsons. Elle est furieuse et du coup elle multiplie les éditos vengeurs, estimant que l'actrice qui avait joué une sainte dans Jeanne d'Arc bafouait son contrat avec le public. La Légion de décence catholique appelle au boycott des films avec Ingrid Bergman et Edwin C. Johnson, sénateur du Colorado, la décrit dans un discours comme un puissant agent d'influence du mal. Le lobby du puritanisme américain, tant redouté par les patrons d'Hollywood, vient de donner un coup d'arrêt à la carrière de l'étrangère qui ne l'avait pas pris au sérieux. Stromboli, c'est l'histoire de Karen, une réfugiée lituanienne qui épouse un jeune pêcheur des îles éoliennes et se trouve bientôt prisonnière de ce milieu hostile. Les journalistes ont couru sur l'île pendant le tournage pour rencontrer le couple rebelle, mais ni les critiques ni le public ne soutiennent leur travail. Le New York Times parle d'un film incroyablement faible, reconnaissant que la faute en incombe partiellement au montage sacrilège réalisé par la RKO pour le public américain. La première collaboration entre le studio et Rossellini sera aussi la dernière.
De son côté, la répudiée Magnani eut droit elle aussi à son volcan, puisque six mois avant Stromboli, les Italiens la découvrirent dans Vulcano de William Dieterle.
Ingrid Bergman tourne quatre autres films sous la direction du réalisateur italien. Europe 51, Voyage en Italie, La Peur, Jeannot Buchet. À défaut du soutien d'Hollywood et de succès populaires, le couple est placé sous la protection d'un petit groupe de critiques européens et notamment français. Dans Voyage en Italie, Ingrid Bergman et George Sanders incarnent un couple d'anglais qui arrive à Naples pour régler une affaire de succession. L'un et l'autre constatent qu'ils n'ont rien à se dire et décident de divorcer, jusqu'à ce qu'un mouvement de foule les arrache l'un à l'autre. George Sanders a décrit avec ironie, dans ses mémoires, le tournage de ce film largement improvisé, étrange aventure où il n'est resté que du fait de son humeur pathologiquement facétieuse.
Il faut dire que c'était juste après son rôle de Bois Guilbert dans le Ivanhoé de Richard Topps, ça devait faire un contraste assez sévère.
Le résultat pourtant est fascinant. Dès la première seconde de Voyage en Italie, il est évident que ce couple en Bentley s'ennuie. « Je ne pense pas que tu sois heureux quand nous sommes seuls », dit Ingrid Bergman à George Sanders de toute sa froideur, avant de retrouver une certaine capacité à s'émouvoir devant la culture italienne. Rossellini regarde vivre ses personnages de la manière la plus neutre possible. « Par l'apparition de Voyage en Italie, tous les films ont soudain vieilli de 10 ans », écrit Jacques Rivette dans Les Cahiers du cinéma en 1955. Pourtant, après 5 films, l'association d'Ingrid Bergman et de Rossellini sera considérée comme un échec. Le dernier d'entre eux, La Peur, d'après Stefan Zweig, est tourné en allemand avec des moyens réduits. La diffusion de leurs œuvres communes est confidentielle comparée à celle des films hollywoodiens de l'actrice. Rossellini a pourtant fait des compromis pour que la star hollywoodienne puisse s'insérer dans son cinéma. L'alchimie sentimentale qui existait entre Rossellini et Ingrid Bergman ne leur a simplement pas apporté le succès commercial. Leurs films sont aujourd'hui considérés comme de grands classiques, donnant raison à Ingrid Bergman qui jamais ne se laissera aller à regretter cette période, lui ayant permis d'élargir son expérience d'actrice. Sur un plan personnel, sa route et celle de Rossellini se séparent, comme leur parcours artistique, au milieu des années 1950. Ils divorceront en 57. En 1955, Jean Renoir offre à Ingrid Bergman le premier rôle d'Héléna et les Hommes, un film léger sur les amours mondaines d'une princesse polonaise dans le Paris de la Belle Époque. Son premier film gay, son premier film français, Scande la bande annonce.
La martiale musique signée Joseph Cosma est elle aussi très joyeuse.
À défaut d'y rencontrer le succès public, Ingrid Bergman semble avoir rajeuni de 10 ans depuis le rôle de sévère bourgeoise anglaise qu'elle jouait dans Voyage en Italie.
Lorsqu'ils étaient tous deux à Hollywood, Renoir avait espéré la diriger dans une adaptation de La Renarde, finalement tournée en 1950 par Michael Powell et Aymeric Pressburger avec Jennifer Jones.
Remember the name of this woman, Anastasia. About her was woven one of the world's most fabulous conspiracies. And remember, whenever great motion pictures are talked about, they will speak of Anastasia and the three who gave it life.
Le filmographe consacré à Ingrid Bergman se poursuit avec la bande-annonce d'Anastasia. Nous sommes en 1956 et on retrouve tout de suite Antoine Cyr.
Kay Brown, l'ancienne tête chercheuse de Selznick, devenue agent à succès, estime qu'Ingrid Bergman peut à nouveau séduire le public américain. Elle convainc la Fox de lui confier le rôle-titre d'Anastasia, adapté d'une pièce consacrée à la jeune femme qui, toute sa vie durant, prétendit être la rescapée de la famille des tsars assassinés pendant la Révolution. Filmé à Londres par l'Ukrainien Anatole Litvak avec le Sibérien Yul Brynner, ce film constitue pour Ingrid Bergman un retour en douceur vers Hollywood. Pour faire passer la pilule, le rôle de l'impératrice douairière, Maria Fedorovna, est confié à Helen Hayes, vedette de Broadway et d'Hollywood, réputée pour sa piété sans faille. Anastasia est un succès. Dans la chambre de l'hôtel Raphaël, où elle se repose, après sa représentation quotidienne de Thé et Sympathie au Théâtre de Paris, Ingrid Bergman apprend que son ami, Cary Grant, est allé en son nom chercher l'Oscar de la meilleure actrice en 1956.
Cary Grant qui n'aura droit qu'à un seul Oscar d'honneur à 66 printemps, 14 ans plus tard.
Ce trophée résonne comme un pardon accordé à la star par Hollywood. Elle revient en effet dans plusieurs productions américaines, mais il s'agit de films tournés en Europe. retrouve Cary Grant en 58 pour Indiscret de Stanley Donen, une comédie sentimentale tournée à Londres, où elle tombe amoureuse d'un célibataire endurci qui lui fait croire qu'il a une épouse afin de ne pas avoir à lui demander sa main. L'effet comique, modéré, vient de sa fureur lorsqu'elle découvre que l'homme qui lui fait la cour n'est pas marié. Mais les choses vont s'arranger.
12 ans après, le couple désenchaîné sera pour ce film nommé au Golden Globes. Cary Grant déclara que c'était son film préféré.
Toujours en 1958, Ingrid Bergman joue dans l'auberge du sixième bonheur de Mark Robson, une fresque à grand spectacle qui se déroule en Chine, mais qui est filmée en Grande-Bretagne. Elle interprète Gladys Aylward, une gouvernante anglaise qui devient une sainte laïque et sauve une centaine d'enfants pendant la guerre sino-japonaise. Ingrid Bergman n'était pas enchantée de ce rôle qui la ramenait vers un personnage de nonne, bien qu'elle vive une idylle avec un colonel de l'armée chinoise interprété par Kurt Jürgens.
Vous voulez dire le très asiatique bavarois Kurt Jürgens. Avant lui, la production avait pensé à un autre comédien, lui aussi très asiatique, Sean Connery. C'est ce que l'on appelle la licence poétique sans doute.
Oui. Quant à la véritable Gladys Aylward, celle qui a inspiré le personnage d'Ingrid Bergman dans ce film, elle est furieuse que son rôle soit incarné par une femme au passé sentimental si agité. N'oublions pas que Madame Aylward était une personne extrêmement dévouée et pieuse. Et puis alors surtout, elle nie avec la dernière vigueur avoir eu la moindre idylle avec un militaire local.
Oui, non, mais ça aussi, c'est la licence poétique.
Oui. Bergman retrouve Anatole Litvak en 1961 pour un rôle nettement plus sulfureux dans Aimez-vous Brahms d'après Françoise Sagan.
Et sur la célèbre musique du français Georges Auric.
Ingrid Bergman incarne une décoratrice d'intérieur qui délaisse son compagnon notoirement coureur, Yves Montand, pour un étudiant beaucoup plus jeune qu'elle, Anthony Perkins. Plus belle que jamais, malgré de vagues efforts de coiffure et de maquillage pour la vieillir, elle joue à merveille une bourgeoise sourdement taraudée justement par la peur de vieillir. Le film est un succès en Europe, mais ne convainc guère le public américain.
À Cannes, il fut distingué, Anthony Perkins y remporta en effet le prix d'interprétation masculine un an tout juste après la sortie de Psychose.
Ingrid Bergman se fait plus rare au cinéma dans les années 60 et tourne essentiellement dans des films européens comme la Rolls-Royce jaune d'Anthony Asquith.
Rolls-Royce à bord de laquelle s'engouffrent également Rex Harrison, Shirley MacLaine, mais aussi Jeanne Moreau et Alain Delon.
Bergman obtient le troisième et dernier Oscar de sa carrière, cette fois en tant qu'actrice dans un second rôle pour Le Crime de l'Orient Express en 1975, film anglais de l'américain Sidney Lumet. L'année suivante, elle joue dans Nina, le dernier film de Vincente Minnelli, tourné à Rome et à Venise, où elle côtoie sa fille Isabella, qui est alors journaliste en Italie et n'a pas encore entamé la belle carrière de mannequin et d'actrice qu'elle accomplira par la suite. En 1977, Ingrid Bergman obtient sa septième nomination aux Oscars pour le rôle de Charlotte, grande pianiste mais mauvaise mère, dans Sonate d'automne d'Ingmar Bergman.
Son homonyme et compatriote. Et pour la dernière fois, face à Liv Ullmann, grande comédienne bergmanienne, Ingrid Bergman joue dans sa langue maternelle.
Ja, det är så utmärkt. För detta sortens kex, mineralvatten, bandspelare med kassetter, två detektivromaner, och min ögonbindel och öronproppar, min lilla extra kudde. Och min respläd. Vill du smaka på min goda schweiziska choklad?
Elle meurt à 67 ans en 1982 des suites d'un cancer du sein et à sa demande, ses cendres ont été dispersées dans les eaux de la mer Baltique, le long des côtes suédoises.
Merci Antoine.
Le Filmographe vous a été présenté par Antoine Cyr et Laurent Bourdon sur Séance Radio par BNP Paribas.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.